Bonjour, soyez bienvenus ce dimanche matin jusqu'à 9h, votre magazine Tendance Confidence. Aujourd'hui, nous allons parler de la beauté avec un académicien des sciences qui est Yves Quéré, ancien président du Sénat des professeurs et directeur de l'enseignement à l'école polytechnique. Monsieur Yves Quéré, bonjour.
Bonjour.
Avant que nous parlions de votre livre qui parle de la beauté, que vous inspire le sous-titre de cette émission diffusée sur Tendance Ouest. Son sous-titre est « Au cœur de la vie », tandis que son titre principal c'est Tendance Confidence. Cœur et vie, que vous inspire ces deux mots-clés, vous qui êtes passionné par la physique et vous qui êtes passionné aussi par l'infiniment grand et l'infiniment petit?
Depuis ma naissance, cet organe n'a pas cessé une minute de fonctionner. Il n'y a pas une seule machine de notre vie courante qui fonctionne si bien, si longtemps. Donc voilà, il y a d'abord l'organe, mais il y a surtout tout ce qui est caché par ce mot cœur, c'est-à-dire l'empathie, le sentiment de la beauté, le sentiment d'appartenir à l'humanité. Et pour moi, le cœur, c'est véritablement un mot essentiel.
Et ce mot vie, que vous inspire-t-il ?
La vie, c'est un autre mot totalement essentiel qui est d'ailleurs lié, c'est très beau, le cœur de la vie. Il n'y a pas de vie sans cœur et il n'y a pas de cœur sans vie. Et la vie, c'est une aspiration, ça devrait être, je crois, toujours une aspiration à l'empathie et à la beauté.
Votre vie a été alimentée au moins par une passion, celle de l'enseignement.
L'enseignement m'a beaucoup marqué, effectivement, avoir le contact avec des jeunes esprits, souvent brillants d'ailleurs, mais en même temps très très spongieux. Je veux dire par là que c'était des éponges qui voulaient absorber de la connaissance, de la culture, donc ça m'a beaucoup aidé à me former, c'est vrai.
Parlons ensemble de ce livre dont vous êtes l'auteur et qui aborde ce thème de la beauté. Ça a été édité chez Odile Jacob. Chacune des lettres de l'alphabet, vous avez choisi d'y mettre un mot et par rapport à ce mot, de lui donner une définition par rapport à ce concept de la beauté comme un émerveillement.
J'ai donné un chapitre par lettre. Par exemple, A, c'est l'admiration. B, naturellement, c'est beauté. C, c'est le choc. Les chocs que nous pouvons avoir dans notre vie. La beauté, nous l'absorbons continuellement. Si nous observons un petit peu la nature autour de nous, les hommes, les femmes, la beauté, elle est partout. Nous la recevons comme nous respirons l'air. Mais de temps en temps, je dirais presque au contraire, nous avons des chocs, c'est-à-dire une beauté qui nous arrive violemment, presque, et qui nous impressionne pour toute la vie.
Et ces mystères de la vie en tant qu'homme, en tant que physicien, que vous inspire-t-il avec vos 91 printemps ?
Il y a d'abord le fait que nous sommes des êtres de la nature que nous admirons bien sûr, nous admirons un coucher de soleil, mais la nature est très méchante. Les animaux se battent entre eux, les montagnes se démolissent, la nature obéit à des lois au fond ineptes, qui sont les lois de la pesanteur. Il y a une partie en nous de nature qui nous tire vers le bas. Et qui fait que nous sommes méchants, que nous faisons des guerres, que nous provoquons des massacres, etc., etc. Et puis, il y a eu, à un moment, une chose extraordinaire qui est apparue dans cette vie qui existait, qui est donc, je répète, naturelle, et au fond assez mauvaise. Il y a eu l'apparition de la conscience, de l'intelligence aussi, et l'homme est devenu un être miraculeux, au fond un être un peu divin. Et nous sommes ces deux choses à la fois. Nous avons une propension naturelle, c'est-à-dire qui vient de la nature vers le mal, et nous avons, je crois, une propension vers le bien, vers la beauté en particulier.
Yves Quéré, je rappelle que vous êtes académicien des sciences et je vous ai rencontré à l'occasion de la parution de ce livre qui parle de la beauté. Avec vous, nous venons de parler de la nature. Parlons maintenant du temps et du temps qui passe, que peut être aussi le temps présent.
Comme saint Augustin, je dirais volontiers, le temps, je sais ce que c'est, bien sûr, je vis dedans, donc je sais ce que c'est. Et si on me demande de le définir, j'en suis incapable. Je suis incapable de définir le temps, puisque à peine pensais-je au présent que le présent est déjà dans le passé. Et que le futur, je ne le connais rigoureusement pas. Je peux, dans une minute, tomber par terre et ne plus exister. Je ne sais rien du futur. Je sais les choses du passé, bien sûr, et le présent, je ne sais pas ce que c'est, puisque aussitôt que j'y suis, il n'existe plus déjà.
Être heureux ne serait-ce pas ajouter de la vie à l'instant présent ?
Oui, c'est une belle définition du bonheur que vous donnez là. C'est dans l'instant présent que, en particulier, je sens et je vois la beauté, ou je l'entends dans la musique, je la vois par mes yeux, je l'absorbe aussi même dans ma pensée. Je pense à des actions, par exemple, d'hommes ou de femmes qui ont été très belles. Donc c'est dans l'instant même que je crée cette vie et elle suinte, si j'ose dire, la vie, elle suinte la beauté.
Vous êtes aussi un passionné de la musique. Nous pourrions parler de Vivaldi avec ses quatre saisons. Et d'ailleurs, avec vos 91 printemps, quelles sont les principales saisons de votre vie? Comment pourriez-vous en parler? Les étés, les automnes, les printemps et les hivers?
Écoutez, il y a les quatre saisons, on peut les voir chronologiquement. La jeunesse, l'adolescence, l'âge adulte et l'âge de senior, comme on dit maintenant. Mais on peut le penser certainement autrement. Il y a dans la vie une saison de la joie, incontestablement. Je pense justement peut-être à la jeunesse, souvent. Il y a une saison de la tristesse, alors qu'il n'a rien à voir avec les années, qui peut être la perte de ses parents ou la perte d'un frère ou d'une sœur. La joie, la tristesse, la beauté, c'est une saison, je crois, de la vie. Elle est très, très importante et on n'y fait pas suffisamment attention de regarder autour de nous avec les yeux, mais avec l'intelligence, avec les oreilles, avec tout ce que nous sommes, de regarder le monde autour de nous et de nous en émerveiller. Et puis une quatrième saison, je ne sais pas moi, c'est peut-être la sérénité, c'est-à-dire le fait que, notamment avec l'âge venant, on est moins pris par les problèmes journaliers et il y a une certaine sérénité qui s'installe par rapport au passé.
Que vous inspire Yves Kéré ce verset qui est contenu dans l'évangile de Jean au chapitre 1 ? En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée.
C'est magnifique. À nouveau, je crois que ce que j'esquissais tout à l'heure en disant que la conscience, c'est véritablement pour moi l'essentiel de la vie.
Et l'essentiel de la vie, qui peut aussi être ponctué par des moments de silence d'ailleurs, est-ce que c'est un moment que vous appréciez particulièrement que le silence ?
On entend le silence, on l'entend d'autant plus qu'il est compris entre des notes, entre des sons. Eh bien ce silence nous plonge dans la réflexion, je crois. Et on pourrait presque dire qu'il n'y a presque rien de plus important dans la musique que les silences.
Un silence qui préexiste à la parole ?
Oui, certainement. La parole, justement, c'est en effet une autre manifestation du caractère, peut-on dire, divin que nous avons. Je pense souvent à ce jour extraordinaire, ce jour béni, où pour la première fois, un être vivant a nommé un objet. C'est-à-dire, la première fois, elle a dit peut-être devant une fleur, elle a dit fleur. Évidemment, elle n'a pas dit fleur, elle a dit rumpf, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Mais il y a eu ce premier jour où on a commencé à nommer. Et ce jour-là, exactement en même temps, naissait le langage. Bien sûr, ces mots qui nous servent tous les jours pour échanger, connaître le monde. Et la science, puisque créer le mot fleur, par exemple, ou le mot arbre, c'est véritablement créer un ensemble. Et il a fallu une grande intelligence déjà pour justement que cet homme ou cette femme comprenne que dans le mot fleur, ça recouvrait aussi bien le lys, la rose. Je crois en effet que la naissance des mots est un moment crucial de l'humanité.
Votre magazine Tendance Confidence avec aujourd'hui Yves Kéré comme invité, membre de l'Académie des sciences, physicien. Vous êtes également passionné par la musique et je vous ai rencontré à l'occasion de la parution de votre livre paru chez Odile Jacob qui parle de la beauté. Vous êtes sensible à la beauté de la musique également.
Avant même de naître, j'étais dans la musique parce que ma mère était une excellente violoniste. Elle jouait beaucoup, notamment Bach, et j'ai entendu Bach avant de naître, je pense, et beaucoup après ma naissance. Et j'ai vécu dans cette atmosphère musicale, dans ma famille, toute ma jeunesse.
Nous pouvons apprécier une fleur, nous pouvons apprécier aussi la musique. La beauté peut se décliner sous différentes formes et nos sens nous permettent de voir, d'entendre, de goûter aussi à ce que peut être la beauté. Mais d'où vient-elle, cette beauté ?
Oui. Si on réfléchit un peu à la beauté, se demander d'où elle vient cette beauté. Qu'est-ce que c'est la beauté ? C'est un peu comme ce que je disais du temps tout à l'heure que nous ne savons pas définir. Personne ne sait définir vraiment ce que c'est que le temps, bien que nous le sentions en nous tout le temps, mais on ne sait pas le définir. Eh bien, c'est un peu la même chose pour la beauté. La beauté existe incontestablement, mais nous ne savons pas très bien la définir parce qu'elle est presque complètement subjective. Vous pouvez très bien trouver quelque chose que je trouve beau, et réciproquement, et il n'y a rien à dire si vous le trouvez beau. Donc je crois que nous ne pouvons pas voir les choses autrement que par ce que nous les sentons, c'est-à-dire nous voyons, Nous sentons la beauté autour de nous, mais nous ne pouvons pas bien la définir. Quelqu'un aurait mis des graines de beauté quelque part pour que nous soyons un petit peu consolés, mais pas du tout. Je crois qu'elle existe par elle-même.
L'académicien François Chang, que vous connaissez, écrit dans son opuscule intitulé « Cinq méditations sur la beauté ». La beauté est la noblesse du bien, le plaisir du bien, le rayonnement même du bien.
Alors, François Chang, que j'admire énormément, joint d'une façon extrêmement forte ici la beauté et le bien. Le bien est lié à la vérité et à la beauté. C'est une espèce de trio qui est inséparable, je crois. Le bien évoque la beauté. Le bien, ça ne peut pas être le laid, ça ne peut pas être l'horreur. Le bien est lié manifestement, on ne sait pas trop comment, mais à la beauté. Et elles sont toutes les deux, la beauté et la bonté, liées à la vérité.
Il existe plusieurs langages pour traduire une émotion, par exemple, langage écrit, langage parlé, langage gestué. Est-ce que nous pouvons penser sans langage ?
Est-ce qu'on peut penser sans langage ? Alors ça, c'est une question que je crois très, très difficile. J'avais écrit quelque part que le langage était nécessaire à la pensée et que quand nous pensons, nous mettons des mots, même si nous ne parlons pas, évidemment. Mais quand nous pensons, si nous nous réveillons au milieu de la nuit et que nous pensons à quelque chose, nous le pensons avec des mots. Et puis, un de mes grands amis, physicien très, très subtil en physique, qui s'appelle Frank Laloué, me disait qu'à son avis, non, que j'avais tort, qu'il pouvait y avoir une pensée sans langage. Alors j'en suis resté là, je ne sais pas où est la vérité entre les deux, mais pour moi quand même le langage est essentiel pour à la fois pour s'exprimer et pour penser.
Toujours dans votre livre qui a pour thématique de la beauté, paru chez Odile Jacob, vous écrivez page 76, le sourire, témoin de l'existence, là se lie une part majeure de la vérité d'un être, en lui se résume sa beauté.
Alors là, vous me touchez parce qu'il y a une page à peu près, disons, sur le sourire. Et c'était évidemment, je ne le dis pas dans le texte, mais c'était le sourire de France, de ma femme. Je crois que le visage est quand même l'expression même de l'être de notre vie. Et dans le visage, évidemment, il me semble, il y a deux points importants qui sont le regard et le sourire. Et le sourire, souvent, atténue bien des problèmes. Quelquefois, il suffit de sourire, même devant quelqu'un qui est un peu désagréable, dans un bureau ou ailleurs. Un sourire peut tout améliorer, tout embellir, au fond. Il y a de la beauté dans le sourire, incontestablement.
Pour la lettre E, vous avez choisi le mot enseignement, illustré à la page 96, par une citation que vous empruntez à Georges Charpak. La chose éducative tient à la conviction qu'il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite.
Son idée était en effet de lutter dès l'enfance contre les idées toutes faites, c'est-à-dire contre ce que nous entendons, nous voyons, nous entendons surtout, qui sont des choses, des espèces d'éléments de pensée préfabriqués, mais que souvent on adopte sans y réfléchir.
Avec vous, nous parlons de l'enseignement. À votre avis, Yves Quéré, vous qui êtes académicien des sciences, je vous laisse ce sujet, comment transmettre des valeurs et éveiller à des libertés ?
Comment transmettre des valeurs ? C'est par l'exemple. Revenons aux enfants, je ne vois pas qu'un enfant puisse vous croire quand vous lui parlez de valeurs, si vous-même vous êtes un être indigne. Donc il est évident pour moi que transmettre des valeurs, c'est commencer d'abord par essayer de les exercer soi-même, ces valeurs.
Et la suite du sujet est éveiller à des libertés.
La liberté, c'est à nouveau une valeur très double. Bien sûr que nous voulons que nous ayons la liberté, d'ailleurs c'est le premier mot de notre emblème national, mais nous savons très bien que les libertés ont des limites, on ne peut pas faire n'importe quoi. L'enseignement de la liberté, c'est un enseignement subtil qui évolue entre deux extrêmes, c'est-à-dire la servitude d'un côté, l'absence de liberté, et la liberté totale qui est une inconscience totale.
Pour la lettre N, page 140, vous avez choisi le mot « nature ». Et je vous cite, « Peut-on dire que la nature est belle ? Elle dont la face visible, le paysage, s'est constitué au long de millions d'années à coups d'éruptions, de secousses désordonnées, d'agressions climatiques, d'érosion et toute violence arbitraire à nos yeux ?»
Oui, nous le disions tout à l'heure, et je manie quelque chose qui peut choquer, mais je prétends, je dis plutôt que je prétends, que la nature n'est pas belle toute seule. Elle n'est belle que parce que nous sommes là pour la voir belle. Sinon, la nature, c'est simplement des cailloux, de l'eau, on appelle ça une mer, une grosse boule de feu au-dessus de nous, on appelle ça le soleil. Mais il n'y a rien de beau en soi si nous ne disons pas, si nous ne la voyons pas pour belle.
Votre livre s'intitule « De la beauté ». Selon vous, est-ce qu'il y a une beauté ou des beautés ?
Est-ce qu'il y a des beautés avec un petit B ? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui s'appelle la beauté ? Alors là, il y a une réponse qui est curieusement à prendre chez Marc Aurèle. Il dit « Il y a une beauté, elle est quelque part, elle est au-dessus de nous et nous en avons des éclats. » Je suis tout prêt à souscrire à ce jugement de Marc Aurèle. Il y a quelque part, bien caché, probablement dans un autre monde, il y a quelque chose qui s'appelle la beauté. Ce sont nos sens et notre intelligence qui détectons ces différentes parcelles de beauté que nous devons partager avec les autres.
Et en tant qu'homme et physicien, Yves Quéré, qu'auriez-vous envie de dire à Dieu ?
Eh bien, que j'aspire à la beauté, à une beauté éternelle.
Merci beaucoup pour ce temps accordé à cette émission.
Merci à vous.